Tu as été jusqu'au bout, Seigneur, dans la mission reçue de ton Père, celle de racheter la race humaine de l'emprise, Seigneur, et de l'esclavage du diable. Tu as été jusqu'au bout, tu t'es oublié toi-même pour nous. Et merci, une fois de plus, d'avoir pris tout sur toi. Merci d'avoir accepté le mépris, la honte, le rejet, l'ignominie, Seigneur, les moqueries de tout genre, tout cela par amour pour nous, tout cela parce que tu avais en vue notre salut. Seigneur, merci de tout cœur. Nous voulons maintenant écouter ta parole avant de nous retrouver autour de ta table et partager ce pain, Seigneur, et cette coupe symbole. Ô Dieu de ta mort sur la croix, une mort expiatoire, une mort rédemptrice. En effet, ta mort n'a pas été un accident de l'histoire. Tu es venu pour mourir, car il n'y avait pas d'autre moyen de sauver l'homme de la perdition, de libérer l'homme de sa culpabilité, de le justifier devant le Créateur, si ce n'est que tu viennes ici-bas toi-même et que tu meurs à notre place. Parle-nous, fais-nous du bien, au nom de Jésus. Amen. Et gloire au Seigneur. Nous sommes évidemment le dimanche 31 mars, dimanche qui coïncide donc avec la fête de Pâques qui tombe un peu plus tôt cette année. Peu importe la période, peu importe la date, dès lors que nous avons cette opportunité de célébrer des moments comme ceci, dès lors que nous avons cette occasion eh bien, de tourner nos cœurs vers le Seigneur pour lui exprimer notre reconnaissance pour Pâques, eh bien, nous le faisons avec beaucoup, beaucoup d'entrain, beaucoup de passion, beaucoup de zèle, beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de réjouissance. Gloire à Dieu. Et donc, à cette occasion, j'aimerais parler de la croix, enfin, à propos de la croix, j'aimerais parler du triomphe de la croix. Alléluia. Ce qui a paru comme étant un échec, ce qui a paru comme étant une défaite, puisqu'alors qu'il était cloué sur la croix, ses adversaires, tout l'enfer s'est réjoui. Pour l'enfer, eh bien, c'était fini, il avait ressuscité les gens, il avait guéri les malades, etc. Eh bien, le voilà pendu entre ciel et terre, le voilà sur ce bois infâme de la croix. Et donc, pour le monde des ténèbres, pour le diable et tout son empire, pour ses adversaires, c'était évidemment une occasion de se moquer du Seigneur, une occasion de tourner son nom en dérision, mais ce qui pouvait paraître comme étant de la folie était véritablement sagesse de la part de Dieu, puisqu'il fallait absolument sa mort en croix ou à la croix pour que le salut soit donc rendu accessible à tout homme qui croit en lui. Le triomphe de la croix, tel est donc notre thème de ce dimanche matin. Nous allons sans plus tarder lire l'évangile de Jean chapitre 19 à partir du verset 17. Jean 19 à partir du verset 17, nous lisons. Jésus portant sa croix sortit de la ville vers le lieu appelé le crâne, qui s'est dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et avec lui deux autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était inscrit Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. L'inscription était en hébreu. Et donc, langue nationale parlée par les Juifs, en latin, qui était donc la langue officielle de l'Empire, et puis le grec, c'était la langue commune, qui était parlée partout. Donc, tout le monde pouvait lire cet écriteau. Le verset 21, les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas le roi des Juifs, mais... » Il a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais que le sort désigne celui à qui elle sera. C'était afin que s'accomplisse l'écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma robe. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère. Se tenait Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine ou de Magdala. Jésus voyant sa mère debout auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple, donc l'apôtre Jean, l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que déjà tout était achevé ou accompli, dit afin que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. On fixa à une tige, disons, une éponge imbibée de vinaigre, et on l'approcha de sa bouche. Quand il y prit le vinaigre, Jésus dit, « Tout est... » Vous pouvez dire avec moi, « Tout est... » Tout est achevé. Ensuite, il baissa la tête et rendit l'esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur, tout est accompli. Oui, nous avons ce privilège, en ce dimanche 31 mars, de célébrer Pâques. Pâques est donc une fête importante pour nous, les chrétiens, puisque c'est une occasion de célébrer, certes, la mort du Seigneur, une mort expiatoire, une mort conformément à la volonté de notre Père, mais aussi Pâques, une occasion de célébrer sa victoire, son triomphe sur la mort. Alléluia. Et gloire à Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons parler du triomphe de Pâques. Nous pouvons parler de la victoire de Pâques. Et donc ce matin, très rapidement, j'aimerais attirer notre attention sur une de sept paroles que le Seigneur a prononcées là sur la croix. Sept paroles qui sont restées célèbres. Paroles formidables, sorties de la bouche du Seigneur alors qu'il était en proie d'atroces souffrances, alors qu'il était là pendu entre ciel et terre sur cette croix. Le Seigneur va proclamer cette parole que nous trouvons dans les évangiles, parole prononcée à Golgotha. Nous aurons, je l'avais déjà promis dans le passé, de revenir pour étudier un peu les sept paroles. Premièrement, il dit dans Luc 23, verset 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jusqu'au bout, il n'a pas gardé de haine, pas du tout. Il savait qu'il était venu pour mourir. Et là, il demande à son père de pardonner à ce bourreau. Et puis, toujours dans Luc 23, verset 43, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, là, il s'adresse aux brigands, aux malfaiteurs repentants, en lui disant, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Gloire au Seigneur. Il a encore le temps de sauver, tout en étant dans une situation, mes amis, très, très difficile. Troisième parole, dans Jean 19, versets 26 à 27, « Femme, voici ton fils. » Et puis il se tourne vers Jean, « Voici ta mère. » Évidemment, il s'est adressé à la fois à sa mère, Marie, mais aussi à l'apôtre bien-aimé, à savoir Jean. Et puis, quatrième parole, là, dans Matthieu 27, 46, « Élie, Élie, lama sabachthani, Élie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ou alors, Marc reprend ce cri en araméen, « Eloi, Eloi, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cinquième parole, toujours dans Jean 19, verset 28, « J'ai soif, nous l'avons lu. » Et le verset est la sixième parole, celle qui nous intéresse, du moins pour aujourd'hui, au verset 30 du chapitre 19 de Jean, « Tout est accompli. » Et enfin, au verset 7, et là, il dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » C'est donc la sixième parole qui nous intéresse, Sixième parole sur laquelle j'aimerais très rapidement tirer notre attention. Tout est accompli, tout est achevé. Il est venu porteur d'une mission de la part du Créateur. Il est venu non pas par hasard, il n'est pas venu en villégiature sur cette terre. Il n'est pas venu pour faire les affaires. Il n'est pas venu pour telle ou telle autre raison. Mais il est venu pour accomplir la volonté suprême de son Père, à savoir payer le prix pour racheter l'homme. L'homme qui volontairement s'était placé sous l'emprise du diable. L'homme qui volontairement avait tourné le dos à son Créateur, mes amis, et se tournait vers le diable, avait désobéi volontairement à l'ordre que le Seigneur lui avait donné. Tout est accompli. Eh bien, cette parole est plus que de simples mots sortis de la bouche du Seigneur, alors qu'il était en proie à d'atroces douleurs, alors qu'il était là en proie à de douleurs indescriptibles, meurtri, assoiffé, rejeté, humilié. Eh bien, ces paroles étaient plus que de simples mots. Cette parole, tout est accompli. J'ai déjà eu à le souligner, fait partie de ces trois grès qui ont changé à tout jamais le destin de l'humanité. Trois grès suprêmes qui ont retenti dans l'histoire de l'humanité. Trois grès, mes amis, qui ont changé le destin et la destinée de l'homme. Et parmi ces trois grès, il y a celui que nous trouvons au chapitre 19 de Jean, verset 22, verset 30, hein, tout est accompli. Un cri de triomphe, un cri de victoire. Père, la mission que tu m'as confiée, eh bien, je viens de l'accomplir. Tout est achevé vis-à-vis de son Père, duquel il avait reçu la mission, vis-à-vis de l'humanité perdue, de l'humanité pataugeant dans la venge du péché, eh bien, tout est achevé. Désormais, tout est possible, alléluia, pour l'homme humilié, pour l'homme écrasé, pour l'homme sous l'emprise et sous l'empire du diable, pour l'homme vampirisé, pour l'homme, rendu presque comme une bête, désormais, il y a espoir. Et désormais, il y a espoir, car pour cet homme-là, le Christ a tout accompli. Et gloire à Dieu, alléluia. Oui, très rapidement, le premier cri, puisque nous ne pouvons pas mieux apprécier ce deuxième cri, tout est accompli, si je ne reviens pas très momentanément sur ce premier cri qui avait fait l'objet de toute une prédication il y a 8 ou 9 ans d'ici. Le premier cri, c'est celui qui a retenti là au jardin d'Éden. Lorsque l'homme et la femme ont volontairement tourné le dos à Dieu, lorsqu'ils ont désobéi, au lieu que Dieu les rejette, les laisse dans cette situation terrible et horrible, au lieu que le Seigneur les abandonne à tout jamais, en disant « Vous avez choisi la voie de la désobéissance, vous m'avez tourné le dos, maintenant vous allez le payer très cher, vous allez récolter ce que vous avez semé », au lieu d'avoir cette attitude-là, mes amis, c'est tout le contraire. Et c'est là que nous voyons, mes amis, tout l'amour du Créateur, du Dieu de la Bible. C'est Dieu qui nous est révélé comme étant le Dieu de l'amour. Dieu est amour, nous dira Jean plus tard. Et dans son amour pour l'homme, il va tout de suite se mettre à le chercher. Et c'est là, dans le jardin d'Éden, alors que tout baignait dans l'innocence, dans la perfection, alors que jusque-là, c'était une communion parfaite entre l'homme et son Créateur, le Seigneur descendait, le Seigneur marchait avec l'homme qu'il avait fait à son image et à sa ressemblance, cet homme qui n'était qu'une petite créature de rien du tout, mais qui cependant, eh bien, avait tout l'amour, qui cependant était l'objet de toutes sortes de sentiments nobles de la part du Créateur, et donc là, après la chute de l'homme, ce cri retentit, « Adam, où es-tu ?» Alléluia. « Adam, où es-tu ?» Si le Seigneur a posé cette question à Adam, c'est qu'Adam n'était plus là où Dieu l'avait placé. Il avait quitté ce lieu de communion avec le Seigneur. Il avait quitté ce lieu, cet état de communion avec son Créateur pour un état de désobéissance. Et désormais, eh bien, la rupture a été consommée. Désormais, eh bien, l'homme est coupé de son Créateur, avec des conséquences terribles, comme la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation de l'âme de l'homme d'avec son Créateur, mais aussi la mort physique, c'est-à-dire le retour de son corps à la poussière. Avant cela, il n'y avait pas de mort. Et ce cri qui retentit. Ce cri-là, Adam, où es-tu ? N'était pas le cri d'un bourreau à la recherche du coupable pour l'exécuter. Ce n'était pas le cri d'un juge vindicatif pour faire tomber l'épée du jugement sur le coupable. Mais c'était le cri qui provenait d'un cœur qui est amour. Adam, où es-tu ? C'était dans un jardin où ces cris ont retenti. Et ce qui est formidable, c'est aussi dans un jardin que le deuxième cri va retentir. Tout est accompli. Au verset 41 du chapitre que nous avons lu, il nous est dit qu'il y avait un jardin au lieu où Jésus avait été crucifié. Et dans ce jardin, il y avait un tombeau neuf, où encore personne n'avait été mis. C'est donc dans ce tombeau-là qu'ils mirent Jésus. Ce cri, oh alléluia. Et enfin, le troisième cri, c'est celui qui retentira lorsqu'il reviendra. La Bible nous dit un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette. Le Christ paraîtra, oh alléluia, au milieu des anges et de sa puissance. Là où nous avons traduit par « à un signal donné », littéralement c'est « au cri de commandement ». Le Seigneur des Seigneurs, le chef de l'armée de l'Éternel, celui qui a vaincu, eh bien, au cri de commandement, eh bien, les morts en Christ sortiront de leur tombeau. Oh, alléluia. Au cri de commandement, ceux qui seront vivants, ces enfants, seront transformés, métamorphosés, transfigurés en un clin d'œil. Et tous iront à la rencontre du Seigneur dans trois cris importants, formidables. Voyez-vous, deux se sont réalisés. Le troisième cri, ça sera la fin. Oh, plaise à Dieu que nous soyons là ce jour-là et que nous soyons en communion avec lui. Si entre-temps il arrivait que nous mourions, pas de problème. Paul rassure, il dit que nous les vivants, nous ne devancerons pas les morts. Ceux qui sont morts seront les premiers à ressusciter, à sortir de la mort, à revêtir de gloire glorieux et aller à la rencontre du Seigneur. Et puis les vivants seulement suivront, alléluia. Mes amis, il y a des choses extraordinaires qui sont devant nous. Tout est accompli. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire très rapidement en lançant ce cri de victoire, ce cri d'achèvement, d'accomplissement par rapport à la mission qu'il avait reçue du Seigneur? Tout est achevé. Qu'a-t-il donc achevé? Voulait-il parler de son séjour, bref séjour ici-bas, en disant, voilà, j'arrive maintenant au terme de mon séjour ici-bas, tout est accompli? Non. Mes amis, certes, il tendait à la fin de son séjour terrestre et s'apprêtait, après avoir triomphé de la mort et de celui qui détenait la puissance de la mort, à savoir le diable, au terme de son séjour ici-bas, et après avoir remporté la plus grande victoire qui soit, eh bien, il s'apprêtait à aller rejoindre son Père. Mais qu'a-t-il achevé, in fine? Qu'a-t-il accompli, au fait? Eh bien, il a accompli, il a achevé la mission pour laquelle il était venu sur cette terre, alléluia. Sa venue n'a pas été un accident de l'histoire. Sa venue, mes amis, n'a pas été quelque chose qui est arrivé comme ça de manière impromptue. Non. Il est venu sur cette terre avec une mission. Et pour accomplir cette mission, il s'est incarné dans un corps semblable au nôtre. Il a connu toute la nature humaine sauf le péché. Voyez-vous, il est venu, mes amis, pour racheter l'homme. L'homme de l'esclavage par rapport au péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. À cause du péché, l'homme est coupable aux yeux de son Créateur. Nous sommes conçus dans le péché. Nous sommes nés dans le péché. Nous avons vécu dans le péché. Et à cause du péché, nous aurons de comptes à rendre au Créateur. Mais grâce soit rendue à ce Créateur merveilleux, de ce que dans son amour, il a pensé à nous. Il a envoyé son Fils pour nous libérer de cette culpabilité, pour nous libérer de l'emprise de la mort spirituelle sur nous, pour nous libérer, mes amis, du pouvoir du diable, nous restaurer dans notre condition première. Car Adam avait reçu le pouvoir, car Adam avait reçu la domination sur tout. Le diable ne pouvait rien contre lui. Rien. D'ailleurs, pour l'avoir, il a eu recours à la séduction. Il a eu recours à toute son intelligence perverse. Il a tenté. Il lui a lancé l'hameçon. Il a tellement bien préparé son coup que l'homme et la femme ont mordu, hélas. En se tournant vers le diable, ils ont tourné le dos à leur Créateur. En acceptant la proposition du diable, ils ont cédé eux-mêmes le pouvoir qu'ils avaient reçu de Dieu de dominer sur la création ici sur terre. Ils ont cédé ce pouvoir, cette puissance, cette domination au diable. Et depuis, le diable a commencé à régner sur la race humaine, à maintenir la race humaine dans un état d'esclavage, dans un état abominable, dans un état de culpabilité. Mais Dieu est amour. Oh, alléluia. Là, dans le jardin d'Éden, il n'a pas abandonné l'homme. Il a d'abord appelé l'homme pour que l'homme dise lui-même, reconnaisse qu'il n'était plus là où Dieu l'avait placé. Qui n'était plus dans ce statut-là. Et c'est là que Dieu va faire cette promesse. Concernant quelqu'un qui allait naître de la femme et qui seul allait écraser le diable. Oh, alléluia. Mes amis, par sa mort, Jésus nous a acquis le pardon. Nous sommes pardonnés en vertu de l'œuvre de la croix. Quand je vois des gens qui ont une religion, qui observent des jeunes, qui font toutes sortes d'œuvres, de bonnes œuvres, dans le but de recevoir le pardon, je pleure. Il n'y a rien qu'un homme puisse faire qui puisse contraindre Dieu à le pardonner. L'homme est dans un état de culpabilité profonde. Dieu est juste. Puisqu'il est juste, tout péché doit être puni, oui ou non. Il ne peut pas fermer les yeux en disant, ok, ben voilà, ici, les cancans, ok, des petits. Non! Comment Dieu allait rendre l'homme juste? Comment Dieu allait de nouveau l'accueillir sans se compromettre, sans aller à l'encontre d'un de ses attributs, c'est-à-dire la justice? Dans tout ce que Dieu fait, sa justice se manifeste. Il n'y avait pas d'autre solution que lui-même vienne par son Fils. Alors le Seigneur est venu. Il est venu, il va mourir à la place de l'homme. Le jugement qui pesait sur nous, la condamnation à laquelle nous étions destinés, puisque lui a pris tout le péché de l'humanité sur lui, à cet instant précis, il est devenu péché. Ou sacrifice pour le péché. Il est mort. Et au troisième jour, il est ressuscité. Ainsi, Quiconque croit en lui est justifié aux yeux de Dieu. Dieu peut accueillir l'homme, celui qui s'approche au nom de Jésus, lui qui est juste, quand tu te présentes en t'appuyant sur l'œuvre de la croix, eh bien, il te déclare juste parce que quelqu'un a payé pour toi. Quelqu'un a expié le péché. Vous comprenez pourquoi il a dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Personne ne peut venir au Père que par moi. Comment un coupable peut approcher celui qui est la justice même parfaite? Voilà pourquoi après, quand il a tout accompli, il a demandé à ses disciples de d'aller prêcher cette bonne nouvelle à toute la création. Voyez-vous, et aujourd'hui encore, nous prêchons cette parole. Il nous a acquis le pardon du péché. Il nous a acquis le salut. Car le salut se trouve dans une personne. Et cette personne, c'est... Mais malheureusement, 2000 ans plus tard, il y a encore des gens qui cherchent le salut dans toutes sortes d'observances religieuses. Des gens qui cherchent le salut auprès des anges, auprès de tel ou tel autre prophète, qui réussissent à tout accomplir. J'ai même vu, comme ça il m'arrive, quelquefois, un pasteur en plein délire. Un pasteur agité, qui parlant de la parole de Dieu, que son prophète, eh bien, pouvait contredire la Bible, je ne me souviens plus les termes qu'il a utilisés, mais jamais le contraire. Il défendait son prophète. Oui, ce prophète est mort, mais notre Sauveur est vivant. Alléluia. Aujourd'hui, les gens s'accrochent à des enseignements. Ils sont prêts à défendre leur prophète. Que Dieu m'en garde. Je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit. Je suis là pour prêcher l'évangile. Car je sais qu'un seul est mort à la croix. Je sais qu'un seul est ressuscité d'entre les morts. Je sais qu'un seul est assis à la droite du Père. Je sais qu'un seul intercède pour nous. Celui-là, c'est Jésus de Nazareth. Alors aujourd'hui, les gens ont tout le temps le nom de tels prophètes dans leur bouche. Ceux qui meurent, mes amis, en s'appuyant sur des enseignements de tel ou tel prophète, sont perdus. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Car nous sommes sauvés en... C'est tout. C'est tout. Alors soyez en paix. Peut-être qu'on vous a perturbé par ce genre d'enseignement. La parole parlée ou je ne sais pas quoi. Voyez, non! Si c'était ça, si la parole parlée, laissée par ce prophète-là, était la parole qui sauve, alors ceux qui ont vécu avant ce prophète, ont été sauvés comment? Vous avez déjà réfléchi à ça? Ceux qui ont vécu au 19e siècle, au 16e siècle, ceux qui ont vécu après la mort et la résurrection de Jésus, dont il est question dans le livre des Actes, que beaucoup crurent. Ils furent sauvés. Au jour de la Pentecôte, Pierre a prêché, non pas une religion, mais une personne, sa mort et sa résurrection. Il y eut 3000 conversions. Mais ce prophète-là n'était pas encore né, hein? Oui ou non? Et alors? Et vous avez des gens... C'est le fanatisme. C'est l'obscurantisme. Voyez? Nous devons faire très attention. L'homme peut être facilement fanatisé. Enfin, je vous l'ai dit, sur tous les plans. Surtout nous autres, les Africains. Il est très, très facile d'être fanatisé. Voilà. Il y a des gens qui se battent pour leurs chanteurs, pour leurs musiciens. Ils se battent. Pendant que ces musiciens se la coulent douce, quelque part en Europe, eux, ils se battent ici. Tel, le nôtre, c'est le plus grand chanteur du Congo. Il peut l'être ou ne pas l'être. Il n'est pas le premier des chanteurs congolais. Il y en a qui ont chanté avant lui, qui sont passés. Lui aussi passera. Mais, restez attachés à celui qui ne passe pas. C'est la mort parlons de Jésus plutôt que sa vie terrestre, plutôt que les miracles, les différents miracles qu'il a accomplis, qui est de la plus haute importance. Tout est accompli veut dire que le plan de Dieu pour le salut de l'homme, dans le sens générique du terme, c'est-à-dire le salut de tout être humain, eh bien, le plan est achevé. Le plan est accompli. La rédemption, le rachat des perdus est achevé. Il n'y a plus rien à faire. Christ a tout accompli. Alléluia. Tout ce que l'homme doit, maintenant, c'est de croire en lui. C'est de le recevoir comme sauveur et seigneur dans sa vie. C'est de s'appuyer sur cette œuvre singulière et extraordinaire qu'est sa mort et sa résurrection. Alléluia. Donc, quelques vérités, nous allons nous arrêter là parce que nous avons la Sainte Cène. Quelques vérités en rapport avec cet achèvement du plan de Dieu, avec cet accomplissement de la mission, la noble mission, la mission suprême que le Seigneur avait reçue de son Père par rapport à l'humanité. Premièrement, eh bien, l'accomplissement de la promesse faite dans Genèse, chapitre 3, verset 15. Après que l'homme et sa femme aient péché, c'est fini, le péché consommé avec toutes les conséquences que nous connaissons, séparés de Dieu, à partir de ce moment-là, la détresse, la souffrance, toutes sortes de faiblesses, eh bien, vont devenir une réalité par rapport à l'homme et à sa femme. À partir de ce moment-là, ils sont coupés de Dieu. Mais là, quand Dieu fait retentir ce premier cri, Adam, où es-tu? Dans ce contexte-là, il donne à l'homme et à la femme une promesse. La descendance de la femme. Et là, il s'adresse au diable. La descendance de la femme t'écrasera la tête, mais tu lui blesseras le talon. Eh bien, cette promesse-là a été accomplie à Golgotha. Cette promesse a été faite dans le jardin. L'homme pécheur, l'homme coupé de Dieu, l'homme coupable, l'homme en proie à toutes sortes de souffrances, dans le jardin d'Éden, et plus tard, c'est aussi dans un jardin que cette prophétie va s'accomplir. Comme nous l'avons lu, c'est dans un jardin que le Christ a été crucifié et déposé dans un tombeau qui n'avait pas encore été utilisé. La descendance de l'enfant t'écrasera la tête, mais tu lui blesseras le talon. En disant cela, le Seigneur n'insinuait pas ou ne voulait pas dire ou voulait dire que bon, tu es quand même aussi assez puissant, même si tu recevras un coup fatal à la tête. Vous savez, la tête, quand vous recevez un coup à la tête, même si vous êtes baraqué, c'est fini. Hein? Quand la tête voit les étoiles, c'est fini. Vous retrouvez par terre, hein? Vous pouvez être costaud, même un petit vous donne un coup de marteau à la tête, c'est fini. Vous tombez les jambes en l'air. Et c'est fini pour vous. Vous ne pouvez plus vous relever, traumatisme, etc. Et puis, vous lui blesserez les talons. Non. Il fallait qu'il soit blessé afin que son sang coule. Car sans le sang, il n'y a pas de rédemption. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il fallait que son sang coule. Et pour que son sang coule, il fallait qu'il soit blessé. Et d'ailleurs, le Seigneur utilise les talons. Aucune incidence sur l'ensemble du corps, non? Hein? Une petite égratignure au talon, certes le sang va couler, vous mettez un sparadrap, vous marchez, vous allez au boulot. Tu vas à l'aéroport, tu fais ton travail sans problème. Mais un coup fatal à la tête, c'est fini, tu tombes dans les pommes, tu te retrouves dans le gaz ou dans le nuage, et ça y est. Oui, il a triomphé de Satan par sa mort, alléluia. Il a triomphé de tous les démons. Comme Paul nous le dira plus tard, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les puissances. Il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par
la croix.
Oh, la croix. Encore la croix. Certes, symbole de faiblesse. Oui. Dieu a utilisé ces moyens pour sauver l'homme. Et enfin, oui, toujours par rapport à ça, avant de passer au deuxième point et terminer, cela veut dire, par rapport à l'accomplissement de cette promesse que le Seigneur avait faite à l'homme, là au jardin d'Éden, ceci veut dire que la mort du Seigneur sur la croix a provoqué la défaite de Satan. Satan est un adversaire vaincu. Satan a été dépouillé à la croix. N'ayez plus peur. Il va essayer de vous faire peur. Mais ayez vos regards sur le ressuscité du troisième jour. Lui l'a vaincu. Lui l'a écrasé. Lui l'a rendu, l'a réduit à l'impuissance. Oui, c'est désormais un ennemi vaincu. Et il tourne, il rôde comme un lion rugissant. Pour que nous quittions la main du Seigneur, à ce moment-là, il peut attaquer. Mais tant que nous sommes entre les mains du Seigneur, il ne pourra rien faire. Il pourra nous attaquer dans notre corps. Mais de toute façon, notre corps ici, à cause du péché, a été rendu vulnérable. Une petite bactérie de rien du tout, qu'on ne peut même pas voir avec nos yeux, pour laquelle il faut un microscope, une petite bactérie de rien du tout dans le corps, peut entraîner la mort, oui ou non? Et donc ce n'est pas étonnant que le diable arrive à nous attaquer dans le corps. Même s'il ne nous attaque pas dans le corps, ben, nous sommes environnés de plus en plus par toutes sortes de, comment, des bactéries, d'éléments toxiques, surtout ici chez nous. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes qui font des pneumonies et qui en meurent, surtout les enfants. Quand je vois toutes ces femmes assises le long de route pour vendre, c'est vrai que c'est leur seul moyen de gagner, leur seul gagne-pain. Mais elles sont exposées avec les enfants, tous ces gaz brûlés de véhicules. Et tout le monde le sait. Il est de notoriété publique que le mazout qu'on nous envoie en Afrique, c'est du mazout, mes amis, que certains négociants véreux. De mazout qu'on ne peut pas utiliser dans des pays développés, qu'on nous envoie ici. Et dans ces gaz brûlés provenant de ce mazout, de ce diesel, il y a des particules toxiques. Voyez-vous? Et toutes ces particules-là agressent, voyez-vous, attaquent l'homme et arrivent à provoquer des cancers. C'est là que nous devons beaucoup prier pour que nos responsables urbains se rendent compte et prévoient des lieux, des marchés où toutes ces personnes pourraient. Nous ne pouvons pas nous imaginer l'impact négatif. L'écologie, les bouteilles, des saletés partout. Et nous prions. Vous pensez que la prière va mettre l'ordre sur la route? Vous pensez que la prière est la solution à l'insalubrité de la ville? Non. Vous et moi, nous sommes la solution. Vous et moi, nous sommes la solution. Oh, prions pour la propreté. Je ne prie pas. Vous allez dans certains pays, vous pensez que là-bas, les gens ont prié pour qu'il y ait la propreté? Ce sont des gens qui ont compris, qui ont éduqué les gens. La population est éduquée. Vous avez une bouteille, il ne faut pas la jeter n'importe où. Ah non, vous essayez d'être un bon réaïo. Alors comment voulez-vous qu'avec ce genre de réaction, nous puissions faire quelque chose? Et résultat, les gens sont malades. Nous n'assumons pas notre responsabilité vis-à-vis de l'environnement, de la nature. Voyez-vous? Et résultat, la nature se rebelle contre nous. Et nous nous tournons vers le Seigneur, nous commençons à pleurer. Il dit, mais ne pleure pas. Je t'ai donné une intelligence pour vivre en intelligence avec la nature. Oui ou non? Tu ne vas pas chasser tous les moustiques de cette terre. Le péché est là. Et donc, tous ces éléments nuisibles sont là aussi. C'est en nous de créer un environnement qui nous permette de vivre en nous exposant le moins possible à toutes ces particules toxiques ou alors à toutes ces bactéries ou tous ces virus. Oui, Jésus, par sa mort en disant tout est accompli, il a anéanti le pouvoir du péché. le pouvoir d'asservissement, d'esclavage. La mort du Christ est vraiment victoire, triomphe pour nous. Alors, mon frère et ma sœur, profite de l'occasion pour t'attacher davantage au ressuscité du troisième jour. Alléluia. Car il a tout accompli. Comme il a tout accompli, nous pouvons espérer avoir une vie marquée par le succès, par la réussite, par la victoire. Puisqu'il a tout accompli, eh bien, nous pouvons aller de l'avant, quelle que soit la tempête qui souffle, quels que soient les ouragans qui se lèvent. Puisqu'il a tout accompli, eh bien, nous avons toutes les raisons, et du ciel et de la terre, de persévérer. Car tôt ou tard, notre Rédempteur, celui qui a vaincu, se levera et viendra à notre secours et nous donnera la victoire par rapport à nos épreuves. Gloire à Dieu. Nous allons prier et nous allons nous préparer en même temps à la Sainte Cène. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce message. Merci d'avoir accompli, ô Dieu, toutes les promesses que le Créateur avait faites ou a faites à l'humanité. Car en toi, toutes les promesses du Père sont oui, amen. La première promesse concerne la venue de celui qui allait libérer l'homme de l'emprise, de la domination macabre, horrible, mortifère, sous laquelle se trouvait désormais l'homme. Et toi, tu es venu, toi le descendant de la femme, et tu as écrasé Satan à la croix. Merci de nous donner cette victoire chaque jour qui passe. Merci Seigneur pour la Sainte Cène. Nous allons bientôt prendre ce pain, symbole de ton corps brisé à cause de nos manquements. Nous allons prendre cette coupe, symbole du sang que tu as versé. Oh, merci d'avoir été jusqu'au bout, car ta mort est salut pour nous. Ta mort est pardon pour nous. Ta mort est réconciliation pour nous. Ta mort est victoire pour nous. Ta mort est puissance pour nous. Ta mort est libération pour nous. Ta mort est gloire pour nous. Oui, donne-nous d'expérimenter tous les bénéfices, Seigneur, de ta mort, là, à la croix de Golgotha. Merci pour tout. Amen.